Tours, 10 à Brest et 9 à Lille.
Très bon réveil sur Radio Classique, il est 6h.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Et avec Lénaïque Monnier pour le premier journal.
Ordonnance sous 49.3, un conseil des ministres se tient cet après-midi pour faire un choix. Les Européens unis face au chantage aux droits de douane de Donald Trump. L'Union prête à utiliser son arme la plus puissante de dissuasion. Et puis la fin de la Coupe d'Afrique des Nations au terme d'un match chaotique. Nous nous arrêterons ce matin sur son héritage économique.
Les droits de douane américains sont-ils en train de faire ralentir l'économie chinoise? Le gouvernement a annoncé cette nuit une croissance de 5% pour 2025, avec toutefois un très net ralentissement fin d'année. Et à la une de ce journal, c'est peut-être le dénouement du feuilleton budgétaire. Un conseil des ministres est convoqué ce matin.
Et on saura à l'issue si le gouvernement compte recourir au 49.3 ou bien appliquer son budget par ordonnance. Rien n'est exclu, a prévenu la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon. Sur la méthode, donc, le suspense demeure, mais sur le fond, le projet de budget est désormais largement connu. Sébastien Lecornu a fait plusieurs annonces vendredi et hier soir, il a précisé ses arbitrages sur les recettes, Zoé Pallier.
Dans une lettre adressée au patronat hier soir, Sébastien Lecornu a fait notamment deux annonces. La première concerne la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises. Elle devait baisser cette année. Finalement, elle sera maintenue à son niveau de 2025 et rapportera 8 milliards d'euros. Seul changement, les entreprises de taille intermédiaire de moins de 5 000 salariés seront épargnées. Il n'y aura pas non plus de baisse de la CVAE pour cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Des mesures salué par les socialistes. D'ici moins de 10 jours, ça peut être terminé, se félicite un cadre du PS, soulagé d'entrevoir la fin du marathon budgétaire. Réaction plus amère au centre et à droite. Lecornu accède à toutes les demandes des socialistes, soupire un président de groupe parlementaire. Augmenter la pression fiscale sur les entreprises plutôt que de baisser les dépenses est une erreur. Ça aura des conséquences économiques, estime Philippe Juvin, député Les Républicains et rapporteur du budget.
Et autre annonce ou confirmation, le gouvernement s'engage aussi à ne pas toucher aux allocations pour les personnes en situation de handicap. Les bourses étudiantes sont maintenues pour tous les étudiants et le repas à 1 euro au restaurant universitaire sera mis en place au mois de mai. Pas de réforme de l'abattement de l'impôt sur le revenu de 10% pour les retraités. L'autre grand titre de l'actualité, c'est l'Union européenne qui élabore sa riposte face à Donald Trump. Le président américain a menacé ce week-end 8 pays européens, dont la France, de droits de douane supplémentaires de 10 à 25% jusqu'à ce qu'un accord soit conclu pour la vente complète et intégrale du Groenland. En riposte, Emmanuel Macron appelle à activer l'instrument anti-coercition de l'Union, surnommé le bazooka ou arme nucléaire économique. Cet outil jamais utilisé permet de prendre une panoplie de représailles. Face aux menaces, les Européens entendent afficher leur unité. Ils n'ont pas le choix, nous dit ce matin l'eurodéputée Renaissance Nathalie Loiseau.
C'est un moment historique. Soit on se redresse, soit on se couche et on disparaît de l'histoire. Si on reste divisé, on sera faible. Moi, je souhaite que les Européens n'aient pas la main qui tremble. Ce n'est pas nous qui commençons une crise transatlantique. C'est malheureusement Donald Trump qui traite l'Alliance Atlantique comme une relation entre un suzerain, lui, et des vassaux, nous. La politique d'apaisement a été un échec. Et en 2025, on a vécu une année d'humiliation. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui se met à plat ventre devant Donald Trump. Ursula von der Leyen, qui signe un mauvais accord commercial avec les États-Unis. Nous allons le geler, cet accord commercial. Ça suffit.
Et j'ajoute que Romuald Sciorra, qui est directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis au sein de l'IRI, sera avec nous dans le journal de 7h pour essayer de comprendre si, face aux menaces de Donald Trump, l'Europe prend un risque, si elle a raison et surtout si elle a les moyens de riposter. En bref, l'accès à Internet de nouveau très limité hier soir en Iran après un bref rétablissement. Cette coupure inédite imposée en pleine vague de contestation cache, selon les défenseurs des droits humains, une manière de réprimer. Les bilans tenus par différentes organisations oscillent entre 3 000 et 20 000 morts depuis le début de la riposte.
Un an après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la lutte contre le VIH décline à travers le monde.
L'objectif d'éradiquer le sida en 2030 s'éloigne. Coalition Plus, qui est l'Union internationale d'ONG de lutte contre le sida, publie ce matin une enquête sur les conséquences de l'arrêt brutal du programme d'aide d'urgence contre le VIH. Sur le terrain, 77% des pays et des associations interrogées déclarent que leur programme de prévention et de soins a été fortement impacté. Rémi Pfister.
Première conséquence de ces coupes budgétaires américaines, près de 3 millions de malades du sida n'ont plus de traitement, en majorité en Afrique et en Europe de l'Est. Parallèlement, 4 ONG sur 5 n'ont plus accès à la PrEP, ce traitement préventif administré aux populations très à risque de s'infecter, explique Vincent Leclerc, directeur de Coalition Plus.
On sait que la PrEP fait partie de ces outils de prévention essentiels pour contrôler l'épidémie de VIH de demain. Depuis janvier 2025, les choses se sont effondrées et aujourd'hui, on sait qu'on ne sera pas du tout en condition d'éliminer le VIH pour 2030 et il faut s'attendre à une épidémie qui durera longtemps et qui marquera durablement le 21e siècle.
Ces baisses de financement impactent également le dépistage. Si les kits sont encore livrés, difficile de les distribuer. Chaque ONG a licencié 45 agents de terrain en moyenne, se désole Vincent Leclerc.
Du coup, l'enjeu, c'est que des personnes qui n'auront pas l'opportunité de rencontrer dans leur quartier ces travailleurs sociaux n'auront pas d'opportunité de se dépister. Et là, ce qu'on risque de voir, c'est des arrivées très tardives vers le dépistage et des personnes qui sont à un stade avancé. Et ça, c'est à la fois pour les personnes, leur santé et pour l'épidémie en général, une catastrophe.
Selon les dernières prévisions de l'OMS, l'arrêt des financements américains provoquera la mort d'environ 6 millions de personnes lors des 4 prochaines années.
Au moins 21 morts et des dizaines de blessés dans le déraillement d'un train puis d'une collision dans le sud de l'Espagne. Un train qui assurait la liaison Malaga-Madrid a déraillé avant de percuter un autre train, le faisant sortir lui aussi des rails. Au Portugal, centre-gauche et extrême-droite vont s'affronter au second tour de l'élection présidentielle. L'élection d'un président portugais n'avait pas requis de second tour depuis 1986. C'est le candidat socialiste qui est arrivé en tête.
Radio Classique 6h06, retour en France. Rachida Dati appelle au vote utile en vue des élections municipales.
Oui, dans un petit peu moins de 2 mois, la ministre de la Culture, qui d'ailleurs va quitter le gouvernement, a lancé hier sa campagne devant les adhérents du parti à la Maison de la Mutualité. Lucie Dupressoir, vous y étiez avec un mot d'ordre, unité.
Pour lancer sa campagne, Rachida Dati a voulu miser sur toutes les forces.
Cher Valérie, cher Bruno.
Au premier rang des représentants de l'UDI, alliés historiques, de Renaissance, du Modem, des Républicains. Invité de dernière minute que l'on n'avait pas vu depuis longtemps auprès de Rachida Dati, Bruno Retailleau.
Rachida n'est pas la meilleure candidate simplement parce que elle est la mieux placée. Rachida est aussi la meilleure candidate tout simplement parce qu'elle incarne ce que Paris a perdu.
Moins de 10 minutes de discours, service minimum pour le président des Républicains qui ne s'est pas affiché aux côtés de sa candidate pour répondre aux questions de la presse. Pour faire union, il manquait aussi des partis. Hier, sans jamais les nommer, Rachida Dati a appelé au désistement de Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizon, et Sarah Knafo, proche d'Éric Zemmour.
Ne vous laissez pas embarquer par ceux qui prétendent incarner une troisième voie. J'en appelle aussi à ceux qui souhaitent rassembler la droite et le centre. Ils savent que leurs candidats ne peuvent pas gagner. Donc que veulent-ils ? Nous faire perdre ? Qu'ils prennent leurs responsabilités.
Si Rachida Dati ne fait pas l'unanimité dans son propre camp, un soutien résume. Elle a ses défauts, mais c'est notre meilleure chance pour Paris. Nous n'avons pas de plan B.
Cette question à présent. Dominique Pellicot aurait-il pu être arrêté avant qu'il commence à faire subir des dizaines de viols répétés à son épouse par des inconnus ? C'est ce que laisse penser un rapport de l'Inspection Générale de la Justice qui sera rendu public aujourd'hui. L'ADN de Dominique Pellicot avait été prélevé et identifié dans une affaire de tentative de viol dès 2010. Autrement dit, un an avant le début des viols sur Gisèle Pellicot. Les explications pour Radio Classique de Nina Droff.
Tout commence en 2010 lorsque Dominique Pellicot est surpris en train de filmer sous les jupes des clients d'un supermarché de Seine-et-Marne. Placé en garde à vue, il écope d'une simple amende de 100 euros, mais son ADN est prélevé par la police. Il est rapidement recoupé avec une empreinte déjà enregistrée dans le fichier national des empreintes génétiques, relevée en 1999 dans le cadre d'une enquête pour tentative de viol. Mais quand la police scientifique envoie l'information au parquet de Meaux chargé de l'enquête, le courrier se perd et n'arrive jamais à destination. À l'époque, le parquet de Meaux est en pleine réorganisation. Il n'est pas rare que des pièces soient perdues ou envoyées à des magistrats qui ne sont plus en fonction. Ce rapprochement ADN n'est donc jamais exploité. Impossible cependant de conclure à un dysfonctionnement pour l'Inspection Générale de la Justice, car on ne sait pas si le courrier a été reçu ou non. Elle formule tout de même plusieurs recommandations pour sécuriser la réception des informations sensibles par les tribunaux.
Attention, 5 départements sont toujours placés en vigilance orange, pluie, inondation. Ce matin, alerte qui concerne les Pyrénées-Orientales, Moselle, l'Hérault, l'Aude, la Corse du Sud et la Haute-Corse. J'ajoute qu'à Narbonne, deux quartiers de manière préventive ont été évacués tard hier soir.
Vous avez peut-être entendu cette nuit les supporters fêter leur victoire dans les rues de Paris ou des grandes villes. La Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée hier soir avec la victoire du Sénégal contre le Maroc, qui était le pays organisateur de l'événement.
Alors pour vous résumer, un pénalty, un boycott, une panenka ratée, une folle fin de match qui a vu le succès effectivement 1-0 des Sénégalais. La CAN, c'est un événement lucratif entre la billetterie, les sponsors, le tourisme et les droits télé. De l'argent qui rentre dans le pays hôte, mais depuis plusieurs années, à mesure que l'épreuve gagne en visibilité, elle sert à façonner l'image économique du continent et renforce son attractivité, Fabien Albert.
Confiance, organisation, crédibilité, réussir le pari de la CAN, c'est montrer son sérieux. Un gage de confiance pour de potentiels investisseurs qui évaluent les risques avant de se lancer. Fabrice Lolia est docteur en sciences de l'information et de la communication.
Cette image-là, elle est importante dans beaucoup de pays qu'on voit développement parce qu'ils n'ont pas cette possibilité d'avoir une image forte qui permettent aux investisseurs d'avoir confiance et d'investir dans le pays. C'est tout l'art du soft power, pouvoir attirer des investisseurs en leur montrant qu'on sait organiser quelque chose et vous pouvez avoir confiance, donc venez.
Une image qu'il faut à tout prix véhiculer, en particulier sur les réseaux sociaux où le moindre couac peut gâcher la réputation de l'organisation.
Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, quand on a un stade vide, c'est une image négative. Et l'image négative, elle va être diffusée beaucoup plus rapidement que la bonne image du stade plein où tout le monde s'amuse.
Ça, le Maroc l'a bien compris, face à des tribunes claires semées sur certains matchs en début de compétition en raison des prix élevés, les autorités ont décidé d'ouvrir gratuitement les tribunes.
Voilà, et puis d'un mot, deux résultats de l'Open d'Australie, trois même. Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka, les numéros 1 mondiaux, sont qualifiés. À 45 ans, Venus Williams, elle a perdu il y a 28 ans, la découvrait à Melbourne. C'était son premier tournoi qu'elle a remporté ensuite 7 fois.
Merci beaucoup, Lénaïque Monnier. Prochain journal, ce sera à 6h30 avec Charles Bonner et à 6h45 pour l'économie. Très bon réveil, il est 6h11 sur Radio Classique.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Et à la une de l'économie, la France réclame une réponse forte face à la nouvelle augmentation des droits de douane américains. Donald Trump a annoncé ce week-end une augmentation de 10% à partir du 1er février et qui pourrait grimper jusqu'à 25% à partir du 1er juin pour mettre la pression sur les pays qui ont envoyé des troupes militaires au Groenland. Emmanuel Macron réclame l'activation du mécanisme anti-coercition de l'Union européenne, souvent présenté comme l'arme nucléaire des relations commerciales. Coup d'envoi ce matin du Forum économique mondial de Davos, traditionnel rendez-vous des dirigeants économiques et politiques. Il se déroule jusqu'à vendredi, avec cette année un invité de circonstance, puisque le président américain Donald Trump doit y prendre la parole ce jeudi. Les droits de douane américains sont-ils en train de faire ralentir l'économie chinoise? Le gouvernement a annoncé cette nuit une croissance de 5% pour 2025, avec toutefois un ralentissement au quatrième trimestre et une baisse de 20% sur l'ensemble de l'année des exportations vers les États-Unis. Et puis le feuilleton budgétaire pourrait arriver cette semaine à son épilogue. Un conseil des ministres est convoqué aujourd'hui. On connaîtra ce que le gouvernement compte faire. 49.3 ou budget appliqué par ordonnance, rien n'est exclu, a prévenu la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon. Les grandes entreprises françaises ont massivement racheté leurs propres actions l'an dernier. 35 milliards d'euros au total pour les seules entreprises du CAC 40. C'est un mécanisme qui permet notamment de soutenir le cours de bourse et donc de rendre la valeur, une partie de la valeur aux actionnaires, Eric Mauban.
Oui, bonjour Stéphane. C'est vrai que en tête de ce classement des rachats d'actions, on trouve Total Energy hein, qui a déboursé 7 milliards d'euros. Après, on trouve AXA, 5 milliards, juste derrière Sanofi et puis les trois grandes banques françaises. Ainsi, l'ensemble des sociétés du CAC 40 a consacré 8 milliards d'euros de plus qu'en 2024 à des rachats d'actions, soit une progression de 30%. Un chiffre à mettre en parallèle avec celui des versements de dividendes qui, lui, est resté stable l'an dernier à 73 milliards d'euros. Une stabilité qui s'explique par l'érosion du résultat net de 12% en 2024. Alors là encore, c'est pour l'ensemble des sociétés du CAC 40. Selon les calculs de la lettre Vernimen, cette pratique du rachat d'actions est rendue possible du fait de situations financières saines. Les sociétés sont peu endettées, la quasi-totalité de ces redistributions est le fait d'entreprises à maturité qui estiment qu'il vaut mieux reverser l'argent aux actionnaires plutôt que de surinvestir ou de gonfler la trésorerie. Bon, rappelons toutefois qu'en 2023, Emmanuel Macron avait, lui, dénoncé cette pratique en y voyant un signe cynisme de la part des grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'elles en arrivent à utiliser cet argent pour acheter leurs propres actions.
Merci beaucoup, Éric Mauban. Nous parlerons tout à l'heure dans le chiffre du jour du grand retour des fusions-acquisitions l'an dernier. 4800 milliards de dollars au niveau mondial. L'augmentation est de 35% par rapport à 2024. La France n'est pas en reste. L'augmentation est de 30% sur le marché français, malgré la situation économique du pays et l'incertitude, notamment sur le front fiscal. On en parlera dans le chiffre du jour, donc juste avant le journal de 7h. Bientôt 6h15 sur Radio Classique, l'invité de Comment j'ai réussi, Benatou Benichou. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Académie des métiers du cinéma et de l'audiovisuel, l'AMCA. C'est une école assez récente. Elle a été fondée par une scénariste. Qu'est-ce que représente ce secteur d'activité, celui du cinéma, en termes de débouchés? On sait que dans ce secteur, il y a très très peu d'élus, très peu de personnes vont bien gagner leur vie et beaucoup risquent, comme on dit, de galérer, parfois même en situation de précarité. Qu'est-ce que vous dites aux étudiants qui entament un cursus chez vous? Est-ce que vous leur tenez ce discours de vérité?
Oui, absolument. Parce que d'abord, quand on vient vers ce métier, c'est d'abord une passion. Et cette passion veut devenir un métier. Et on doit leur dire la vérité. C'est pas un métier facile. D'ailleurs, Spielberg dit que c'est le métier le plus dur au monde.
Une passion, ça ne remplit pas toujours le frigo. Hein.
Tout à fait. Mais avec cette passion, normalement, on doit quand même se tenir parce que de toute façon, on regarde tous des films et on voit le générique à la fin. Il n'y a pas qu'un réalisateur, il y a toute une équipe derrière. Il y a des centaines de personnes qui travaillent dans les films. Les débouchés existent, mais à condition qu'on doit être formé à bien comme il faut pour pouvoir y intégrer et choisir le métier qu'il faut. On veut tous devenir réalisateur, mais réalisateur on devient, c'est le mot exact comme on a dit, c'est De Broca qui m'a dit réalisateur on devient. Alors il faut prendre le temps de pouvoir devenir réalisateur, mais il faut intégrer le métier.
Tout le monde ne deviendra pas Steven Spielberg, mais non. Effectivement, vous formez beaucoup de techniciens audiovisuels, des caméramans, des preneurs de son, des décorateurs, des scénaristes aussi. Ouais. Est-ce que les nouveaux médias, les réseaux sociaux, constituent pour toutes ces personnes des opportunités intéressantes en termes de débouchés?
Oui, tout à fait, parce que d'abord, toutes les entreprises maintenant utilisent l'image et le son pour pouvoir un peu communiquer. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux et les médias, il y a les chaînes, les nouvelles chaînes, le streaming, voilà, c'est tout ce qui est Netflix, Amazon, etc. On a besoin de contenu. Et quand on a besoin de contenu, d'ailleurs, on le voit qu'il y a de moins en moins de contenu. On fait que du remake, etc., etc. Maintenant, il faut venir avec des nouvelles idées, avec des personnes créatives qui arrivent, avec aussi des scénarios un peu originaux, qui permettent aussi de pouvoir tenir le public et avoir plus de personnes qui regardent ces films.
L'éléphant dans la pièce, comme on dit, celui qui va vraiment bouleverser ce milieu, c'est l'intelligence artificielle qui va changer la donne pour beaucoup de métiers, dont celui de la production audiovisuelle. Comment est-ce que vous intégrez les nouveaux outils d'intelligence artificielle dans votre formation?
Alors, il y a les outils, tous les outils de l'intelligence artificielle sont là pour aider à la création. Ça crée pas, l'intelligence artificielle, ça crée pas, plutôt elle cherche partout pour pouvoir proposer une solution.
Mais ça peut écrire des scénarios.
Non, ça peut aider à écrire un scénario, mais elle donnera pas une idée. La preuve que, on va dire, l'intelligence artificielle reste artificielle. L'être humain parle de l'être humain. Et puis, je pense que la création artistique, on a déjà vu quand on a inventé Photoshop, etc., on disait, oui, les outils de création d'images vont un peu révolutionner la peinture, etc. Un peintre et avec son art, reste son art, et puis l'être humain mettra toujours vraiment sa patte, et c'est ça qui est important. L'intelligence artificielle, elle est là pour aider et pour apporter. L'être humain a toujours créé ces outils-là, et tant mieux, il faut les utiliser pour pouvoir enrichir et adapter un petit peu ce qu'on veut créer.
Mais est-ce que c'est pas difficile d'enseigner aujourd'hui à des étudiants des choses qui seront peut-être totalement caduques dans quelques mois?
Ben c'est ça l'Académie des métiers de cinéma. Ce qu'on veut enseigner aux étudiants, que c'est en évolution. Vous savez, on a commencé le cinéma avec la pellicule, maintenant on n'est plus pellicule, et quand le numérique est arrivé, oui, mais quand le numérique est arrivé, tout le monde a eu peur du numérique en disant, ouais, c'est pas possible, etc., etc. On s'est adapté, ça nous permet de faire plus de prises, ça nous permet d'être plus à l'aise, ça nous permet d'avoir des images encore plus performantes, etc. Mais ça change pas. C'est pas parce qu'on a la meilleure caméra au monde qu'on fera le meilleur film.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'énormes caméras puisqu'on peut tourner des images d'assez bonne qualité avec un smartphone. Ça change la donne pour une école comme la vôtre?
Est-ce qu'il y a une écriture particulière audiovisuelle lorsqu'on filme avec un téléphone? Il y a même des festivals de films filmés avec des
téléphones. Ça donne pas, parce que ça dépend comment... ça existait déjà avant, hein, quand, quand le téléphone est arrivé, les smartphones sont arrivés. On a déjà fait des films comme ça, hein, il n'y a pas de problème. C'est qu'un outil, ça change pas, parce que la création, c'est plutôt nourrir l'étudiant pour pouvoir... être créatif et pouvoir être original.
Le cinéma et l'audiovisuel sont des métiers de réseau, avec rarement des offres d'emploi qui sont publiées. Il faut connaître quelqu'un généralement dans ce métier pour avancer. Est-ce que vous permettez à vos étudiants d'accéder à un réseau ?
C'est exactement ce qu'on fait chez MK, parce que d'abord, toutes les personnes qui travaillent chez MK, c'est des personnes en activité, c'est des réalisateurs connus, comme Yann Samuel, comme d'autres personnes, Chad Chenouga, etc. Des personnes qui sont encore en activité, qui font des films. Ça, c'est le premier réseau. Le deuxième réseau, il y a le parrainage. S'il n'y a pas de parrainage par des réalisateurs ou des personnes qui sont déjà à l'intérieur du métier, les étudiants ne peuvent pas créer leur réseau.
Est-ce que c'est pour cette raison que vous proposez seulement 60 places par an ?
Oui, pour d'abord... individualiser la formation. Vous savez, quand on arrive dans une école artistique, on a tous des qualités et des défauts, où on est plus performant dans tel domaine et pas dans l'autre. Pour individualiser, il ne faut pas avoir des grandes promotions, il faut avoir des petites promotions, et surtout, il faut avoir ce qu'on appelle un accompagnement et une personnalisation de la formation.
Comment se passe la sélection chez vous ? Comment est-ce que sont triées les candidatures ?
Alors, il y a un dossier de candidature, c'est normal, pour connaître un petit peu la personne quand il arrive, mais il y a surtout deux entretiens. Un premier entretien qui est pour connaître un petit peu le projet de l'étudiant, parce qu'on arrive toujours avec l'idée, oui, je vais devenir réalisateur,
oui,
je vais
beaucoup.
Devenir... Oui, à un certain moment, la plupart, 90% qu'ils arrivent, ils disent, je vais devenir réalisateur. Mais à un certain moment, on va creuser un petit peu
et le projet. Et on se confronte à une réalité.
Oui, et les confronter et leur dire la vérité, en disant, pour devenir, il faut d'abord rentrer. Et pour rentrer, il faut rentrer par la petite porte et après avancer.
Alors, vous venez de me dire, l'intelligence artificielle ne crée pas de scénario. Je viens de demander à Gemini, l'IA de Google, de me proposer des idées de scénario. J'ai plusieurs propositions. Un thriller d'anticipation, l'effaceur de regrets, je vous fais grâce du synopsis. Un drame fantastique, l'écho de la rue Mercœur. Une comédie noire, faux départ. Voilà, les trois propositions. Comme quoi, bon,
je dis elle peut aider, elle peut vous proposer, il n'y a aucun problème, moi. L'intelligence artificielle, elle nous propose plein, que c'est comme si on demande un courrier, elle va nous proposer un courrier.
Bon, je vais les lire et je vous propose un projet.
Ça n'empêche que vous devez retravailler ça, hein, et pour être vraiment personnalisé le synopsis et le scénario, sinon elle va le proposer à quelqu'un d'autre. Hein.
Merci beaucoup Benatou Benichou d'être venu ce matin, vous êtes le directeur de l'AMCA, l'Académie des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Toute
Merci
jeune école fondée par une scénariste, on peut déjà envoyer des candidatures pour la rentrée 2026.
Tout à fait, ça a commencé déjà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Il est 6h22 sur Radio Classique. Nathalie Jonson nous a rejoint. Elle nous emmène ce matin en Nouvelle-Zélande.
Stéphane Pedrazzi sur Radio Classique.
Avec précisément, Nathalie, l'exemple de fonctionnement intéressant de la Banque Centrale Néo-Zélandaise.
Avec GSF Propreté et Services, acteur du service aux entreprises, et sa filiale Pénélope, leader de l'accueil.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Stéphane.
À l'heure du bras de fer entre le président américain Donald Trump et le président de la réserve fédérale Jerome Powell, on va s'intéresser à l'exemple de la Nouvelle-Zélande. La banque centrale du pays, son mandat a été transformé, son gouverneur est personnellement responsable de ses résultats. C'est une idée à la fois originale et inédite puisqu'elle n'a pas été reprise par aucune banque centrale.
Oui, très original. Au début des années 80, l'inflation en Nouvelle-Zélande est chronique et donc proche de 15%. La Banque centrale fonctionne alors comme beaucoup d'autres, avec un mandat officiellement indépendant, mais en pratique sous pression politique. C'est la politique du stop and go qui entraîne des anticipations inflationnistes, des taux élevés et une prime de risque significative sur le pays.
Donc le problème n'était pas uniquement économique, mais aussi institutionnel.
Le problème n'est effectivement pas la compétence des banquiers centraux, mais leur incitation. Tant que la politique monétaire peut être instrumentalisée par le pouvoir politique, la tentation d'un peu plus d'inflation aujourd'hui l'emporte sur la stabilité de demain. C'est le problème d'incohérence temporelle, le court terme gagne trop souvent contre le long terme. Donc, en 1989, le mandat de la Banque centrale est redéfini, la stabilité des prix devient l'objectif prioritaire, explicite avec une cible chiffrée, formalisée dans le Policy Targets Agreement.
Et c'est là qu'apparaît le concept de responsabilité personnelle du gouverneur.
Oui, c'est le cœur de l'innovation. Le gouverneur signe cet accord avec le ministre des Finances. La cible d'inflation est explicitée et le gouverneur emporte la responsabilité personnelle. En cas d'échec répété, il peut ne pas être reconduit, voire être révoqué. On ne parle donc pas seulement de transparence, mais de responsabilité au sens très fort. Une personne identifiée répond du résultat. À l'époque, ni la Bundesbank, pourtant réputée rigoureuse, ni la Banque nationale suisse ou même la Fed n'allaient aussi loin. Cette discipline institutionnelle produit des résultats remarquables rapidement. En quelques années, l'inflation retombe sous contrôle et les anticipations se réancrent à un niveau plus bas. La crédibilité change la mécanique, les taux nominaux et réels reculent, la prime de risque sur la dette se contracte et le pays gagne une réputation de sérieux monétaire. En clair, la règle n'a pas seulement fixé un objectif, mais changé les comportements.
Pourtant, Nathalie, à partir des années 2000, cette responsabilité personnelle du gouverneur s'est atténuée. Pour quelles raisons ?
Oui, en fait, on dénombre trois raisons. Une fois l'inflation maîtrisée et la crédibilité acquise, la menace d'une sanction personnelle devient moins nécessaire. Quand la confiance est installée, vous n'avez plus besoin d'un contrat aussi punitif pour la maintenir. Ensuite, la pratique de la politique monétaire est devenue plus flexible. Les autorités reconnaissent davantage les variations temporaires de l'inflation et l'importance d'éviter une volatilité excessive de l'activité économique et des taux d'intérêt. La logique change, on vise la stabilité dans le moyen terme. Enfin, avec le temps, l'idée qu'un individu porte seul le poids juridique et symbolique de la décision monétaire semble moins nécessaire. C'est ce qui conduit à la fin des années 2010 à la création d'un comité de politique monétaire. La responsabilité devient collective et le lien quasi contractuel entre performance d'inflation et le sort personnel du gouverneur disparaît.
Pourquoi est-ce que cet exemple, Nathalie, nous éclaire sur les tensions actuellement entre Donald Trump et Jérôme Powell ?
Eh bien, si on regarde le mandat de la Fed, il est plus large, inflation, emploi, stabilité financière, et laisse une large place au jugement. Cela rend la Banque centrale plus adaptable, mais aussi plus exposée au débat politique. Les tensions récurrentes entre Donald Trump et Jérôme Powell illustrent ce que la Nouvelle-Zélande cherchait à prévenir en 89. La tentation de repolitiser la politique monétaire, surtout quand les taux sont élevés et que la croissance a ralenti. Quand l'indépendance repose sur un mandat clair, des règles et une responsabilité crédible, elle résiste mieux aux pressions.
Merci beaucoup Nathalie Janson pour les classiques de l'économie. À suivre, Laur Maison pour l'actualité musicale.
Le journal du classique, tous les soirs à 20h sur notre antenne et un avant-goût chaque matin avant le journal de 6h30. Bonjour Laure.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous parlez d'un festival dirigé par un duo d'exception.
La violoniste Lia Petrova s'est en effet associée au pianiste Alexandre Kantorov pour assurer la direction artistique de la prochaine édition de la Music Fest, un festival qu'elle a elle-même créé pendant la pandémie. Alors après 6 éditions à la salle Cortot, ce festival s'installe cette année à la Philharmonie de Paris. Rendez-vous ce week-end, de vendredi à dimanche. 4 concerts au programme éclectique, très contrasté, mêlant les effectifs et les époques avec même des créations et réunissant plus d'une 20aine de musiciens et même un chœur. Alors il faut une sacrée complicité, une confiance et un respect de l'autre pour se partager un exercice aussi sensible et subtil qui consiste à imaginer des programmes. Mais ces deux musiciens se connaissent bien, jouent régulièrement ensemble et ont construit une belle amitié. Amitié née pendant le Covid, comme ils me l'ont raconté.
En fait, on s'est rencontrés juste avant. On a tout de suite vraiment sympathisé, on s'est sentis très à l'aise ensemble et je pense que après le Covid, Lia tout de suite, elle a voulu trouver quelque chose qui marquerait le coup et qui nous permettrait de tous nous réunir musicalement. Et moi, à partir de là, on a aussi juste simplement joué ensemble, on a eu d'autres idées de festival à Nîmes et c'est une manière de d'évoluer chacun de son côté, de se retrouver, de voir où sont nos différences, comment on évolue aussi dans ce qu'on crée ensemble pour avoir l'impression de grandir.
Notre premier concert ensemble était à la Music Fest. Donc je trouve ça très chouette que finalement on continue l'aventure pleinement ensemble. Alex a toujours été présent d'ailleurs au festival, déjà sur scène, mais comme j'ai déjà dit aussi dans la réflexion. Moi j'adore comme Alexandre joue. C'est un des musiciens que je préfère au monde, donc c'est un grand plaisir de jouer avec lui. On partage en effet souvent la scène, on a même enregistré ensemble une sonate. C'est quelqu'un qui m'inspire et que j'admire, donc voilà.
Le deuxième mouvement de la sonate pour violon et piano de Richard Strauss avec Lia Petrova et Alexandre Kantorov. Ils se retrouveront donc avec une pléiade d'autres musiciens ce week-end à la Philharmonie de Paris pour la nouvelle édition de la Music Fest. 4 concerts de vendredi à dimanche.
La suite ce soir à 20h sur notre antenne.
À ce soir, très belle journée à tous.
6h29 sur Radio Classique, dans un instant le journal, mais d'abord la météo de ce lundi. Avec Charles Bonner. Bonjour Charles.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Les pluies sont toujours soutenues en Méditerranée.
Oui, ce qui fait que plusieurs départements sont en vigilance orange. Pluie, inondation, Pyrénées orientales, Aude et la Corse, ainsi que l'Hérault pour un risque de crue. Des pluies accompagnées d'un vent fort ce matin et cet après-midi. Temps également humide sur le littoral atlantique. C'est plus sec du centre au nord-est. Les températures 4 à Strasbourg, 12 à Orléans, 9 à Rennes et 11 à Bordeaux.
6h, 7h. La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Et avec Charles Bonner pour le journal de 6h30.
Avec à la une ce matin la riposte. Les Européens cherchent à répondre aux droits de douane annoncés par Donald Trump tant que le Groenland ne lui sera pas vendu. L'interdiction des réseaux sociaux est débattue à l'Assemblée nationale. Reste à savoir comment l'appliquer. Et puis en Syrie, les Kurdes abdiquent. Un accord de cessez-le-feu est signé avec le pouvoir central.
Et puis le coup d'envoi du Forum économique mondial de Davos. Traditionnel rendez-vous des dirigeants économiques et politique, avec cette année un invité de circonstance puisque Donald Trump y prendra la parole ce jeudi. C'est la question qui revient régulièrement. Comment répondre à Donald Trump ?
Une nouvelle fois posée ce week-end après l'annonce de droits de douane imposés par les États-Unis à 8 pays européens dont la France, jusqu'à la vente du Groenland. Un sommet extraordinaire doit se tenir cette semaine. Emmanuel Macron a déjà proposé une solution et c'est la méthode forte, l'instrument anti-coercition qui peut bloquer le marché européen des entreprises américaines. Mais il existe d'autres armes, Lauriane Toulmont.
Après l'humiliation, la revanche. L'été dernier, l'Union européenne avait accepté que la majorité des biens européens soient taxés à 15% par les États-Unis contre la levée des droits de douane sur des centaines de produits américains. Pour entrer officiellement en vigueur, cet accord commercial doit être voté à Strasbourg d'ici un mois ou deux, un vote que le Parlement européen compte bloquer, explique l'eurodéputé allemand du groupe des Verts, Sergueï Lagodinsky.
C'était un accord de partenariat. Il n'y a pas de partenariat si l'une des parties met la pression sur l'autre pour qu'elle sacrifie un territoire. C'est pourquoi cet accord est nul et non avenu aussi longtemps qu'il y aura des droits de douane supplémentaires.
L'Union européenne pourrait aussi viser les géants du numérique américain pour l'eurodéputé Renaissance Stéphanie Yonne-Courtin.
J'implore la Commission européenne à appliquer nos textes. Le DSA, le DMA, on a déjà des ressources. Une taxe numérique pourrait entrer dans ce cadre large de l'instrument anti-coercition, mais attention, c'est politiquement sensible, juridiquement complexe et puis c'est potentiellement escalatoire.
93 milliards d'euros de marchandises américaines sont également prêtes à être taxées. Ces tarifs douaniers ont déjà été votés l'année dernière. Il suffit de les réactiver, plaide un membre du Parlement européen.
Et pour activer l'instrument anti-coercition, il faut obtenir la majorité qualifiée, c'est-à-dire au moins 15 États sur 27 qui représentent 65% de la population. Il faut donc convaincre notamment l'Allemagne, c'est la raison de ce voyage à Berlin aujourd'hui de Roland Lescure, le ministre de l'économie, pour y rencontrer son homologue Lars Klingbeil. C'est l'heure de trancher pour le gouvernement. Sébastien Lecornu va dévoiler aujourd'hui si le budget va passer par 49.3 ou par ordonnance. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui. Vendredi, le Premier ministre a dévoilé les derniers contours, les dernières concessions, notamment le prolongement de la taxe exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. On y revient dans le journal de l'économie dans 10 minutes.
Radio Classique, 6h33, le musée du Louvre est toujours en crise.
Louise.
Depuis le 19 octobre et le spectaculaire braquage de la galerie Apollon, dont de nouvelles images sont dévoilées par plusieurs médias, les salariés se réunissent ce matin pour décider de la suite de la grève qui a conduit à la fermeture totale ou partielle du musée pendant 5 jours. Entre le budget, les salaires et la gouvernance, les revendications restent les mêmes, selon Christian Galani, le délégué CGT du Louvre.
Le 15 décembre, nous étions plus de 400 à nous prononcer pour la grève. Lundi dernier, nous étions plus de 300. Et je crois que nous avons aussi beaucoup de soutien. Il y a beaucoup de visiteurs qui nous disent, mais au regard de la crise qu'a traversée le musée du Louvre, la dégradation de nos conditions de travail, les 200 emplois que nous avons perdus ces 15 dernières années, je suis persuadé que nous sortirons victorieux et ça aura aussi des conséquences pour les visiteurs eux-mêmes qui pourront visiter un musée qui ne sera plus délabré.
Propos recueillis par Zoé Pallier. Deux quartiers de Narbonne sont évacués et menacés par les fortes pluies. Une décision du préfet alors que le département fait partie des 5 placés en vigilance pluie, inondation ou crue. Dans l'Aude, les écoles sont également fermées.
L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans est débattue à l'Assemblée nationale.
Dans l'hémicycle aujourd'hui avec cette proposition de loi du groupe Renaissance qui, si elle est sur le principe assez consensuel, pose la question de son application de la même manière que l'interdiction des portables dans les écoles. Elle est plutôt soutenue mais parfois difficile à appliquer. Le portable qui sera d'ailleurs interdit au lycée à la rentrée. À Sommières dans le Gard, le lycée Lucie Aubrac a mené depuis 3 ans une expérimentation. Rémi Vallès est allé se promener dans les couloirs.
À l'entrée du lycée, Lucas et Mathis, élèves de seconde, rangent leur portable dans une pochette scellée grâce à un système d'aimant. Impossible de l'ouvrir sans passer par une borne spécifique.
La journée, on n'a que le droit de le sortir entre midi et 2 et à la sortie du lycée.
Comme ça, au moins, on peut plus discuter. Quand même, on est plus concentré quand il n'y a pas de téléphone. Que là, on est plus dans le cours à écouter. C'est mieux, je trouve.
Mais tous les lycéens ne sont pas aussi convaincus par cette interdiction, explique la proviseure Béatrice Hubert.
Ce système, il est intéressant. Maintenant, il pose la question de la responsabilisation des élèves parce que les élèves nous disent mais en collège la loi existe et on n'a pas de pochette, on est autonome, on nous fait confiance, pourquoi en lycée on aurait des pochettes? J'entends cette interrogation.
Pour David Cayuela, professeur de lettres à l'origine de cette mesure, l'interdiction du portable n'est pas qu'une question de pédagogie mais bien de santé publique.
Ces 7 dernières années, j'ai vu apparaître des comportements de crise de l'attention. J'en ai conclu qu'on vivait un virage en classe de première. Il y a environ 5 ans encore, j'avais sur 25 élèves qui lisaient l'œuvre intégrale. Aujourd'hui, c'est moins de 5. Donc, on est en difficulté.
L'enseignant plaide avant tout pour plus d'éducation numérique, car généraliser l'interdiction du téléphone, c'est aussi prendre le risque de déresponsabiliser les familles.
En Espagne, un accident ferroviaire fait 21 morts, un déraillement d'un train avant une collision dans le sud du pays. Près de Cordoue, des dizaines de blessés, dont 6 dans un état grave.
En Syrie, un accord de cessez-le-feu va être signé avec les forces kurdes.
Ils ont fini par abdiquer après plusieurs jours de combat et a renoncé à l'idée de conserver leur autonomie. Depuis la chute de Bachar al-Assad, le nouveau président Ahmed al-Shara veut unifier le pays et l'armée. Bonjour Augustin Lefebvre.
Bonjour Charles, bonjour à tous.
Le détail de l'accord définitif n'est pas encore connu.
Oui, ils doivent être discutés aujourd'hui, ces détails, en présence d'un représentant français. Mais on connaît les grandes lignes de l'accord. Les Kurdes renoncent à l'administration des zones qu'ils contrôlaient depuis une décennie dans le nord et l'est du pays. Cela signifie que l'État syrien prend le contrôle des postes frontières, des champs pétroliers, mais aussi des vastes camps de prisonniers qui accueillent des dizaines de milliers de personnes accusées d'avoir participé à l'administration de l'État islamique, défait en 2019. Les forces kurdes, qui comptent près de 100 000 membres, doivent être intégrées au sein de l'armée et des unités du ministère de l'Intérieur. Le président al-Sharaa indique que dans certaines régions sensibles, les éléments de sécurité viendront de ces régions afin de prévenir les tensions. Avant d'imposer cet accord, il avait publié un décret vendredi qui reconnaissait plusieurs droits à la minorité, comme l'obtention de la nationalité syrienne, une façon d'adoucir ce qui est un revers majeur pour les Kurdes.
Augustin Lefebvre, de la publicité sur ChatGPT, c'est la nouveauté annoncée ce week-end. Cela va concerner les offres gratuites et les abonnements à 8 euros par mois. D'abord aux États-Unis avant le reste du monde, Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'INSEC Grande École.
Le produit des abonnements est très loin de couvrir les coûts de développement de l'intelligence artificielle. OpenAI, c'est une entreprise qui brûle plusieurs milliards de dollars par mois et qui prévoit d'en brûler environ 120 milliards supplémentaires à horizon 2029. Et dans un contexte où OpenAI fait face à de nouveaux concurrents et dans le même temps doit faire face aussi à des actionnaires qui s'impatientent un peu, qui s'inquiètent aussi de l'éclatement éventuel, une bulle de l'intelligence artificielle. Et OpenAI est à la recherche de nouvelles sources de revenus, ce qui explique aussi pourquoi il se tourne vers la publicité aujourd'hui.
Et puis au Maroc hier soir, c'est le Sénégal qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations de football contre le Maroc 1-0 après prolongation au terme d'une fin de match confuse et d'un pénalty raté à la dernière seconde par le Maroc.
Merci beaucoup Charles Bonner. Prochain journal dans quelques minutes à 6h45, ce sera pour l'économie. Dans un instant, on parle d'innovation avec Nicolas Bouzou. Ce matin, la nouvelle intelligence artificielle chinoise Panda qui peut prendre le contrôle de votre téléphone portable s'il fonctionne avec le système Android. On vous explique tout ça dans un instant.
Pour garantir la réussite de votre transformation, faites équipe avec Valtus, leader français et mondial du management de transition. Depuis 25 ans, nous sécurisons vos transformations et vos projets stratégiques. Valtus, c'est 60 000 dirigeants expérimentés dans 28 pays, mobilisables immédiatement. Partenaire de l'édito Eco, Valtus réalise plus de 1000 missions chaque année.
Depuis 50 ans, vous accompagnez face aux enjeux de la vie des affaires et la vocation de Delsol Avocat. À l'écoute des besoins des acteurs de l'économie, nous proposons au-delà des conseils juridiques et judiciaires, une véritable stratégie d'entreprise. Delsol Avocat, la qualité de la relation. Et avec Delsol Avocat, retrouvez les voix de l'économie chaque matin sur Radio Classique.
Alors on entend de plus en plus parler de souveraineté numérique et vous nous présentez justement Private Discus.
Private Discus, c'est la solution de visioconférence. C'est ergonomique, c'est performant, cybersécurisé et surtout c'est 100% français. Nous garantissons la stricte confidentialité des données de nos clients, contrairement aux géants du marché.
Private-discus.com, la visioconférence française. Merci beaucoup Sébastien Chabal.
Référence du service aux entreprises, GSF Propreté et Services s'allie à Pénélope, leader de l'accueil, pour proposer une offre complète de prestations. Des solutions intégrées et sur mesure, essentielles à la performance de vos environnements professionnels. GSF et Pénélope unissent leur savoir-faire et éclairent les rendez-vous éco de la matinale de Radio Classique.
La matinale éco de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Stéphane.
Ce matin, vous nous parlez de la Chine et de l'intelligence artificielle et d'un système appelé Panda. Ça ne s'invente pas. De quoi est-ce qu'il s'agit ?
Stéphane, il se passe quelque chose de très important et qui est assez peu commenté en Europe. Dans plusieurs grands hôpitaux chinois, on a commencé à déployer une intelligence artificielle capable de détecter le cancer du pancréas plusieurs mois, voire plus d'un an avant qu'un médecin ne puisse le voir. Alors, comme vous savez, le cancer du pancréas est l'un des plus redoutables. Il donne très peu de symptômes. Le pancréas est un organe très profond. Donc, ce cancer est presque toujours diagnostiqué trop tard, avec un taux de survie à 5 ans qui est de l'ordre de 10%. Lorsqu'il est détecté tôt, on peut passer à 50% de survie. Donc, chaque mois, gagné en termes de détection précoce sauve littéralement des vies. Alors, l'IA en question, dont on parle ce matin, qui en effet s'appelle Panda, analyse des scanners qui ont été déjà réalisés pour autre chose, des douleurs abdominales, il s'agit de bilans digestifs, de contrôle de routine. Et cette imagerie, cette intelligence artificielle, repère des micro-signaux invisibles pour l'œil humain qui annoncent un cancer du pancréas naissant. Cette IA dépiste des cancers du pancréas sans aller explorer l'intérieur du pancréas.
Donc ce n'est pas un nouveau dépistage à la fois coûteux et invasif.
C'est ça tout l'intérêt, c'est là la vraie révolution. On ne parle pas d'examens supplémentaires, mais de scanners abdominaux absolument banals, sans injection de produits de contraste, qui jusqu'ici n'étaient absolument pas utilisés pour dépister le pancréas, parce que l'image du pancréas est trop floue pour l'œil humain et ne donne pas à voir l'organe. L'intelligence artificielle transforme des examens déjà existants en dépistage automatique, sans coût supplémentaire, sans radiation, sans modification du parcours du patient. En fait, c'est une médecine préventive invisible. Ça ne change rien pour le patient, mais le système de santé commence à détecter silencieusement des maladies avant qu'elles ne deviennent mortelles.
Et pourquoi est-ce que la Chine va aussi vite dans ce domaine ?
Alors la Chine dispose de trois avantages décisifs. Déjà, des volumes massifs de données médicales, les data indispensables pour entraîner ces IA. Ensuite, une intégration extrêmement performante entre l'intelligence artificielle et les hôpitaux, avec des partenariats industriels puissants. Et puis, troisième chose, une régulation beaucoup moins stricte qu'en Europe, qui permet de passer rapidement de la recherche au déploiement clinique. Le résultat, c'est que pendant que les États-Unis ou a fortiori l'Europe se débattent encore
avec l'intelligence artificielle en santé, la Chine est déjà en train de sauver des vies. On bascule vers une médecine qui ne se contente plus de soigner, mais qui surveille en permanence la biologie humaine avant même que nous sachions que nous sommes malades, avec à la clé des économies pour le système de santé.
Merci beaucoup. Nicolas Bouzou, derrière ces nouvelles rassurantes, vous avez quand même réussi à m'inquiéter. On se retrouve demain.
Être libre. Libre d'entreprendre, de donner vie à ses projets, d'investir dans ce qui compte. Être libre, c'est aussi dépenser son argent sans se justifier. Bougardier présente le PLP, le prêt libre patrimoine. Grâce à la valeur de votre patrimoine immobilier, le PLP vous permet de libérer une trésorerie de confort à partir de 100 000 euros. Avec le PLP, votre argent vous obéit enfin. Découvrez le nouveau prêt libre patrimoine sur bougardier.fr. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Courrier international présente Goodbye America. En un an, à la Maison-Blanche, Donald Trump a sapé les fondements de la démocratie américaine. Une dérive autoritaire accompagnée d'une révolution culturelle qui bouleverse le pays. Comment en est-on arrivé là? Comment les Américains le vivent-ils? Un hors-série de Courrier international, en vente chez votre marchand de journaux.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
Avec GSF Propreté et Services, acteur du service aux entreprises, et sa filiale Pénélope, leader de l'accueil.
Trois titres à la une de l'économie. Le spectre de la guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis. Bruxelles pourrait utiliser le dispositif anti-coercition. Son plus haut niveau de riposte après l'annonce d'une augmentation des droits de douanes américains. Coup d'envoi aujourd'hui du Forum économique mondial de Davos. Traditionnel rendez-vous des dirigeants économiques et politiques. Avec cette année un invité de circonstance. Donald Trump doit en effet y prendre la parole ce jeudi. Et puis c'est peut-être le dénouement du feuilleton budgétaire. Un conseil des ministres est convoqué aujourd'hui. La réunion devrait permettre de trancher entre l'article 49.3 ou les ordonnances pour appliquer ce nouveau budget. La France réclame une réponse forte face à la nouvelle augmentation des droits de douane américains. Donald Trump a annoncé ce week-end une hausse de 10% à partir du 1er février et qui pourrait grimper jusqu'à 25% à compter du 1er juin. La mesure concerne les 8 pays européens qui ont envoyé des troupes militaires au Groenland. La France est directement concernée. En réponse, Emmanuel Macron réclame l'utilisation du mécanisme anti-coercition de l'Union européenne. Il n'a jamais été utilisé, mais il a souvent été présenté comme l'arme nucléaire des relations commerciales. Eric Kioch.
C'est l'arme de dissuasion la plus puissante de l'Union européenne. Il lui permet de lutter contre toute agression commerciale extérieure. La Commission européenne peut l'activer de son propre chef ou sur demande de l'un des 27. Ensuite, pour être déclenché, il doit être voté à la majorité qualifiée, soit 55% des États membres. Un processus qui peut être rapide s'il n'y a pas d'opposition, mais en cas de désaccord, cela pourrait prendre des mois. Une fois le feu vert obtenu, la Commission européenne engage des négociations avec le pays agresseur, ici les États-Unis. Si aucun compromis n'est trouvé, la Commission peut alors décréter des mesures de rétorsion, restreindre, interdire même certaines importations américaines, bloquer leurs investissements en Europe, voire leur interdire l'accès aux marchés européens. Mais selon plusieurs observateurs, la Commission européenne pourrait appliquer le plan de représailles qu'elle avait élaboré l'été dernier en cas d'échec des négociations commerciales avec les États-Unis, c'est-à-dire augmenter les droits de douane sur l'équivalent de 93 milliards de dollars de produits américains importés en Europe. Impossible pour le moment de savoir quelles options seront retenues, car depuis son adoption en 2023, l'instrument anti-coercition n'a jamais encore été activé. Il s'agirait donc d'une première si les 27 décidaient de le déclencher contre les États-Unis.
Roland Lescure, le ministre français de l'économie, va défendre la position de la France aujourd'hui à Berlin. C'est un choix délicat. Il risque en effet d'endommager la relation transatlantique. Est-ce que cela peut aller jusqu'à la rupture? Écoutez la réponse d'Antoine Bouet, il est directeur du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale.
D'un point de vue commercial, non, parce que ça ne concernera qu'une partie du commerce entre les deux blocs. Donc, on continuera de commercer, mais moins avec les États-Unis. Et par contre, il peut y avoir évidemment des répercussions importantes en termes diplomatiques, en termes de géopolitique, la relation entre les États-Unis et l'Europe. Si effectivement les droits de douane américains sont mis en place, puis l'instrument anti-coercition est mobilisé, ça sera plus qu'égratigné, ça sera même sérieusement écorné.
La perspective d'une guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis a de nouveau fait grimper le cours de l'or, considéré comme une valeur refuge. L'once d'or cette nuit a frôlé la barre des 4 700 $. La guerre commerciale peut-elle également faire vaciller les marchés financiers? Nous y reviendrons tout à l'heure à 7h15 avec Christopher Dembick de Pictet Asset Management. Et dans ce contexte, s'ouvre aujourd'hui le Forum économique mondial de Davos. C'est le traditionnel grand rendez-vous des dirigeants économiques et politiques, avec cette année un invité d'actualité, puisque le président américain Donald Trump prendra la parole ce jeudi. Face à la montée des tensions entre Européens et Américains, que peut-il sortir de cette édition 2026? Dans son rapport annuel publié il y a quelques jours, le Forum économique mondial considérait que l'intensification des tensions économiques entre les grandes puissances était le principal risque sur la stabilité mondiale, Fabien Albert.
Géopolitique, technologique, sociale, jamais les conditions n'ont été aussi difficiles depuis 1945. Pour notre réunion, a indiqué Börje Brende, le président du forum. Tous les regards seront tournés vers un homme, Donald Trump. Le président américain prononcera son discours mercredi. Il devrait s'adresser aux électeurs américains, à leur pouvoir d'achat en berne, à 10 mois d'élection demi-mandat cruciale pour la majorité républicaine. Seront avec Donald Trump à Davos le secrétaire d'État Marco Rubio, le ministre des Finances, celui du Commerce, les dirigeants des géants de la tech Nvidia et Microsoft, bref, la plus importante délégation américaine de l'histoire du forum, alors que la Chine sera, elle, aussi présente en force. Annonce, partenariat, contrat, la réussite du salon cette année sera peut-être ailleurs, dans les discussions informelles entre les 164 chefs d'État et les 1700 chefs d'entreprise présents. Iran, Groenland, Ukraine, Venezuela, Gaza, les sujets ne manquent pas. Une semaine de forum pour tenter de renouer un dialogue multilatéral en crise avec la multiplication des conflits.
Les droits de douane américains sont-ils en train de faire ralentir l'économie chinoise? Le gouvernement a annoncé cette nuit une croissance de 5% pour 2025. Le chiffre est en ligne avec les objectifs, mais avec toutefois un net ralentissement au quatrième trimestre et une baisse de 20% des exportations vers les États-Unis sur l'ensemble de l'année. Éric Mauban.
Oui, il faut y voir la conséquence de l'imposition des droits de douane décidée en avril dernier par l'administration de Trump. Au cours de l'année 2025, cela s'est donc traduit par une baisse des échanges entre les deux pays. Les exportations directes de la Chine vers les États-Unis ont baissé, vous l'avez dit, de 20%, les importations chinoises de 14,6%. Alors attention, cela n'a pas empêché Pékin de dégager l'an dernier un excédent commercial record de 1 200 milliards de dollars. Les exportations chinoises vers l'Afrique ont enregistré un bond de 26%, de 13% vers l'Asie du Sud-Est, 7% vers l'Amérique latine, 6% même vers l'Union européenne. En fait, rien n'empêche les États de commercer. Ainsi, la Chine expédie désormais des composants vers des usines d'Asie du Sud-Est et du Mexique qui sont ensuite assemblés et expédiés aux États-Unis a des droits de douane très faibles, voire nuls, en vertu d'accords commerciaux bilatéraux respectifs avec les États-Unis. Au final, vous l'avez compris, les États-Unis achètent toujours des produits chinois, mais en passant par un intermédiaire pour éviter les droits de douane.
Merci beaucoup, Éric Mauban. En France, le feuilleton budgétaire doit arriver cette semaine à son épilogue. Un conseil des ministres est convoqué dans les prochaines heures. On saura à l'issue de cette réunion si le gouvernement va utiliser l'article 49.3 de la Constitution ou appliquer son budget 2026 par ordonnance. Rien n'est exclu, a prévenu la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Sur la méthode, le suspense demeure. En revanche, sur le fond, le projet de budget est désormais largement connu. Sébastien Lecornu a fait plusieurs annonces vendredi et il a précisé hier soir des arbitrages sur les recettes, Zoé Pallier.
Dans une lettre adressée au patronat hier soir, Sébastien Lecornu a fait notamment deux annonces. La première concerne la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises. Elle devait baisser cette année. Finalement, elle sera maintenue à son niveau de 2025 et rapportera 8 milliards d'euros. Seul changement, les entreprises de taille intermédiaire de moins de 5 000 salariés seront épargnées. Il n'y aura pas non plus de baisse de la CVAE pour cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Des mesures salué par les socialistes. D'ici moins de 10 jours, ça peut être terminé, se félicite un cadre du PS, soulagé d'entrevoir la fin du marathon budgétaire. Réaction plus amère au centre et à droite. Lecornu accède à toutes les demandes des socialistes, soupire un président de groupe parlementaire. Augmenter la pression fiscale sur les entreprises plutôt que de baisser les dépenses est une erreur. Ça aura des conséquences économiques, estime Philippe Juvin, député Les Républicains et rapporteur du budget.
Les marchés financiers, la Bourse de Paris a terminé vendredi soir en baisse de 0,65%. Le CAC est à 8 258 points. Le chiffre du jour, 4 800 milliards de dollars, c'est le volume d'opérations de fusion-acquisition l'an dernier au niveau mondial. Un chiffre que nous allons commenter avec Benjamin Tarac. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général d'Interpass France. Une hausse de 35% pour le montant des fusions-acquisitions l'an dernier au niveau mondial. Est-ce que ça a permis de rattraper la baisse du marché des M&A, comme on dit en anglais, sur les années précédentes?
Alors, c'est sûr qu'on a vu un vrai rebond et un vrai point d'inflexion en 2025, mais ce n'est pas tout à fait un rattrapage complet par rapport au plus haut qu'on avait vu globalement en 2021, qui était le plus haut historique. C'est une reprise qui est principalement d'ailleurs en valeur, hein, plus qu'en volume. Quand on regarde, c'est une activité M&A qui a été orientée à la hausse, mais de façon peut-être un peu plus sélective, avec un petit nombre de transactions de très grande taille, avec notamment un grand retour des méga deals avec des valos supérieurs à 5 milliards de dollars. Ce qu'on voit, c'est un M&A plus stratégique, avec des opérations qui sont pas perçues uniquement comme un outil opportuniste de croissance, mais comme un vrai levier de transformation stratégique dans des environnements qui sont impactés à la fois par le macro et par une multitude d'enjeux à la fois technologiques et géopolitiques.
Qu'est-ce qui alimente ce marché des fusions-acquisitions? Est-ce que les entreprises mènent des opérations stratégiques, défensives?
Alors, on voit plusieurs choses, hein. Ce qui est sûr, c'est que dans les différents secteurs, on a des secteurs qui ont été plus dynamiques que d'autres, hein, notamment la tech, hein, largement en tête, avec notamment toutes les opérations en lien avec l'IA, avec la cybersécurité et toutes les infrastructures numériques. L'industrie également était très dynamique. On a vu beaucoup d'opérations sur le secteur de l'aéronautique, la défense, le spatial, avec en toile de fond, des enjeux de souveraineté et de réindustrialisation. Et de façon générale, les services financiers également qui ont été très, très dynamiques, à la fois dans toutes les sous-verticales, que ce soit la banque, l'assurance et la gestion d'actifs.
En France, le marché des fusions-acquisitions l'an dernier s'est élevé à 200 milliards de dollars, en hausse de plus de 30% sur un an. Est-ce que ça veut dire que les conditions économiques, l'instabilité politique de la France n'a pas eu d'impact sur ce marché?
Alors, c'est vrai qu'on a vu un M&A français qui a in fine plutôt bien résisté à l'instabilité politique, mais qui s'est déplacé de la France vers l'international. Donc on a une crise politique qui n'a pas gelé l'activité 2025, mais elle a orienté les entreprises françaises vers des acquisitions à l'international, notamment pour réduire leur exposition au risque domestique. Et comme au niveau mondial, on a une reprise en fait qui est tirée plus par la valeur que par le volume, avec un marché qui est très polarisé et tiré par quelques grands acteurs de façon similaire au marché mondial, telco, l'industrie spatiale et la santé ont été très actifs, et à l'inverse, des secteurs réglementés ont été très impactés par la macro et par l'imprévisibilité à la fois législative et politique.
Vous êtes le directeur général d'Interpass, c'est l'un des leaders internationaux du conseil en deal et en restructuration d'entreprises. Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients? Comment est-ce que vous voyez l'année 2026?
Alors, nous, on voit 2026 qui devrait en fait confirmer la reprise progressive mais exigeante qu'on a pu voir en 2025, sans retour à l'euphorie, hein, mais avec une activité qui devrait globalement mieux se porter, et notamment aussi avec les fonds d'investissement mieux orientés, avec à la fois des sorties à réaliser et du capital à déployer. Ce qui est certain, c'est que la création de valeur restera le point d'entrée des décisions M&A cette année. Les opérations, elles se feront là où la création de valeur, elle est clairement identifiée, chiffrée et finançable. Donc nous, en tant que conseil, notre conseil, c'est évidemment de ne pas regarder le M&A comme juste un simple moment, mais plutôt comme un processus avec une valeur qui se crée en amont du deal et qui se sécurise après. Notre rôle en tant que conseil, c'est d'aider les dirigeants à objectiver cette valeur pour que la transaction devienne un vrai levier de transformation et pas juste une opération opportuniste.
Mais est-ce que la perspective d'une guerre commerciale, ou en tout cas le risque d'une guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis, peut compliquer ce marché?
C'est sûr que parmi les éléments et les facteurs externes, ça crée de l'imprévisibilité et ça crée de l'incertitude. Donc on est évidemment vigilant sur ces éléments-là.
Merci beaucoup Benjamin Tarrac, directeur général d'Interpass France. Nous reviendrons sur le risque d'une guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis, les conséquences possibles pour les marchés financiers, avec Christopher Dembig de Pictet Asset Management. Il sera mon invité dans les voies de l'économie tout à l'heure à 7h15. Dans un instant, le journal et la matinale avec David Abiker.
Vous aussi, vous cherchez ? Où et comment placer votre argent? Pour vos placements en bourse ou en assurance vie, rien de plus simple avec Bourse Direct. Suivez nos formations, investissez, épargnez, le tout à moindre frais. Et ça, c'est important. Avec Bourse Direct, vivez vos placements autrement. Risque de perte en capital. Courtier d'assurance numéro Orias 08 044 344. Communication promotionnelle.
Ah, chez Air Caraïbes, ils ont du XXL.
Du XXL ?
Eh oui, confort XXL pour voyager en classe premium économie dès 999 euros ou en classe affaires à partir de 1499 euros.
Pour aller où ?
Guadeloupe, Martinique, bref, toutes les destinations Air Caraïbes. Tu vois, je te l'avais dit que j'avais besoin du XXL.
XXL pour la classe, le siège et le service aussi.
Jusqu'au 22 janvier 2026, profitez des instants promo d'Air Caraïbes et voyagez avec un confort XXL. Rendez-vous sur aircaraïbes.com. Offre soumise à condition.
Air Caraïbes, la compagnie haute en couleur.
6h57 sur Radio Classique, dans un instant le journal de Lénaïque Monnier, puis la matinale de David Abiker.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, elle est pas toujours fiable.
Là, t'as chaud, non ? Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
La météo de ce début de semaine avec Lénaïque Monnier. Le temps est très agité dans le sud-est.
Oui, des pluies toujours très abondantes en Roussillon et sur l'est de la Corse, d'où une vigilance orange ce matin. Beaucoup d'humidité également entre le sud de l'Aquitaine et le sud de Rhône-Alpes, ailleurs, notamment du centre au nord-est. Les conditions sont plus calmes et il n'y aura pas vraiment d'évolution cet après-midi. Les températures, 6 degrés à Bordeaux ce matin, 8 à Rennes et 0 à Strasbourg. Et cet après-midi, vous comptez 10 degrés à Nantes et à Paris, 14 à Marseille, 11 à Orléans et 9 à Clermont-Ferrand.
Merci Lénaïque. La matinale de Radio Classique jusqu'à 9h avec David Abiker. Bonjour David.
Bonjour Stéphane et bonjour à tous.
L'Europe cherche toujours la riposte.
Une riposte efficace faisant suite aux sanctions tarifaires américaines qui font suite elles-mêmes à l'envoi d'une mission militaire européenne au Groenland. Comment se faire respecter sans provoquer l'escalade ? Comment actionner efficacement l'instrument anti-coercition voulu par le président de la République ? Toutes les explications ce matin dans les journaux de la rédaction ainsi qu'avec François Vidal dans 10 minutes, Christian Macarion à 7h40 et avec l'invité de la matinale. Avec Thierry Garcin, effectivement, nous évoquerons le Groenland et l'enjeu qu'il représente pour les États-Unis et l'Europe. Thierry Garcin, spécialiste de la géopolitique de l'Antarctique. L'autre actualité du jour, c'est la méthode utilisée pour faire adopter le budget. Elle sera décidée aujourd'hui. Vous expliqueront Marcelo Vesfred et Guillaume Tabar. À 8h30, la revue de presse d'Hervé Gattegno qui vous comptera la énième croisade contre les tabloïdes du prince Harry et qui fêtera à sa façon le 180e anniversaire du Petit Lu. Comme chaque lundi, Luc Ferry sera notre esprit libre et vous expliquera pourquoi il a envoyé et signé une lettre au président de la République avec d'autres intellectuels et personnalités pour exiger une intervention de la France en Iran. Enfin, c'est aujourd'hui le Blue Monday, une journée internationale de la déprime. L'antidote sera proposé dans le journal imprévisible de Marc Bourreau qui, lui, garde le sourire. Bon réveil.